Le message qui va suivre vous est présenté par le Centre Christ en Action Évangélisation. Nous prions qu'à son écoute, votre vie sera transformée. Que le Seigneur vous bénisse.
Alléluia. Donnons une bonne main d'acclamation à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, nous voulons te dire merci encore pour cette soirée. Nous voulons te dire merci pour ces 100 jours de prière. Et Seigneur, merci parce que nous croyons que c'est un rendez-vous divin. C'est pourquoi nous saisissons cette opportunité d'ouvrir nos cœurs, nos oreilles, Seigneur, afin de comprendre, de recevoir un message qui vient de toi. Seigneur, nous refusons d'être de ceux qui écoutent, mais qui ont des difficultés d'aller en action. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons faire la différence dans un monde sans espérance. Seigneur, tu ne nous as pas sauvés en vain. Seigneur, tu ne nous as pas sauvés tout simplement pour rester branchés devant toi en disant, Seigneur, que peux-tu faire pour moi? Mais Seigneur, nous voulons dire, comme ceux des autres qui disent, Seigneur, que pourrais-je faire pour toi? Nous voulons être, Seigneur, des hommes et des femmes d'action, conscients de la perdition de l'humanité. Oh Seigneur, quand nous pensons à ces 7 milliards de personnes qui vivent maintenant sur cette planète. Mais Seigneur Jésus, si tu revenais aujourd'hui, combien est-ce qu'ils iront? Seigneur, sensibilise nos cœurs. Seigneur, parle dans nos cœurs et glorifie-toi dans nos vies. Nous ne voulons pas, Seigneur, porter le sang de ces individus sur nos têtes. Nous voulons à ce jour-là recevoir des paroles venant de toi en disant bon et fidèle serviteur. Seigneur, nous voulons être ces bons et fidèles serviteurs. Seigneur, nous ne voulons pas être aveuglés par les soucis de la vie. Alors que la vie est bref, la vie est temporaire. Mais Seigneur, si nous comprenons la longueur de l'éternité, une vie sans fin, oh Dieu, parle-nous, t'en supplions. Saint-Esprit, aide-nous. Seigneur, merci parce que tu l'as dit que nous rendrons compte à Dieu par rapport à la vie que tu nous prêtes. Seigneur, si aujourd'hui nous sommes là en train de te louer, t'adorer, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a parlé de toi. Seigneur, nous refusons d'être indifférents. Aide-nous, Père. Enseigne-nous, montre-nous comment faire, Père. Montre-nous, Seigneur. Et utilise-nous selon nos potentiels, nos capacités. Oh Seigneur, nous voulons dire comme Esaïe, mais voici, envoie-moi. Seigneur, aide-nous. Glorifie-toi, Seigneur. Seigneur, nous refusons de croiser les bras. Le temps presse, Seigneur, le monde est bouleversé. Et même les gens qui ne te connaissent pas se posent des questions à propos du futur et commencent à palper, sentir qu'il y a quelque chose qui erre dans l'univers, prêt à se manifester. Mais Seigneur, nous connaissant ta parole, nous avons des difficultés de discerner le temps. Père, glorifie ton nom dans nos vies. Aide-nous dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Prenons nos Bibles. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Hallelujah. Que le Saint-Esprit m'aide. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre le pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour une cause. Et c'est bien parfois de comprendre à chaque moment. Est-ce que vous savez que nous sommes ici à Montréal pour une cause? Qui sait qu'on est là pour une cause? Ah, il y a des moments ça. Je dis, Seigneur, je ne veux pas être de celui qui parle. Et puis c'est comme si c'est des paroles qui tombent, qui vont en l'air. Non, Et ma prière, je dis, Seigneur, aide-moi. Parce que c'est toi qui m'as appelé, Seigneur. Je pouvais faire autre chose dans ma vie. Je pouvais bien, j'ai toujours pensé, je dis, Seigneur, mais je pouvais faire autre chose dans ma vie. Mais au fur et à mesure, les années passent, je commence à réaliser que Dieu ne s'est pas trompé. Et je crois que Dieu voyait que j'étais plus disponible et je pouvais donner plus. Et sans regarder en arrière, même sans un sou. Et je vous l'ai dit, les amis, je crois que je ne vous ai jamais dit ça. Je voyageais à des milliers de kilomètres par voie routière. J'ai fait des pays et des pays par voie routière sans savoir où je dormirais. J'ai passé des nuits dans la forêt. Je me souviens, une infirmière française qui m'a vu à Bamako, quand elle a examiné mon corps, tout mon ventre était rempli des amibes. Et tous mes besoins étaient du sang. Il m'a dit, monsieur, tu vas mourir. Son mari a dit, il était pasteur, il a dit, non, c'est un serviteur de Dieu, il ne mourra pas. Traite-le, il ne mourra pas. C'était à Bamako, je me souviens. Et l'eau qu'on buvait dans la route, tout ce qu'on buvait, c'était n'importe quoi. Tout ce qu'on mangeait, tout ce que je mangeais. Et à peine, il fallait trouver une place pour dormir. Mais le Seigneur me disait, dans ce pays, tu vas parler. Et le reste, moi, je veux m'en occuper. Et parfois, je dormais dans des écoles, sans fenêtre. Je me souviens, je dormais parfois dans des écoles sans fenêtre. Et en Afrique de l'Ouest, quand il fait chaud, il fait chaud. Quand il fait chaud, il fait chaud. Et quand tu sais que tu n'as pas de l'eau à boire, que tu dois boire n'importe quoi, n'importe quel type d'eau, les amis, et quand tu sais que tu n'as pas l'argent pour prendre vraiment ton repas et que tu dois accepter le repas qu'on te donnera, je me souviens un jour, on était en train de manger avec un groupe de musulmans. Vous savez comment ces gens-là, ceux qui connaissent ces gens-là, ils savent comment ils mangent. Ils mettent une grosse bassin avec du riz et des... Alors, il fallait être le premier à mettre la main et puis mettre. Parce que quand il reprend, il retourne, les restes là, il retourne dans l'assiette et puis tourne. Et il fallait manger ensemble. J'ai regardé, oh Seigneur, je ne suis pas habitué à ça. Alors, j'étais toujours le premier à prendre pain et puis j'ai mangé. Et quand je terminais, c'est fini, je ne voulais plus remettre ma main. Je ne sais pas. D'autres personnes, en regardant seulement leurs doigts, tu dis. Alors, les amis, on en avait de quoi à vivre. Dis, Seigneur, est-ce que c'est à ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à ça? Tu m'appelles à ça? Attends, je dis, non, Seigneur, je crois que tu peux bien trouver quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur dit, c'est toi. Les amis, quand tu sais que tu penses que tu peux mourir d'une minute à une autre parce que tu as tellement libéré tous les sangs, les amis ont tellement coupé tes intestins, et tu deviens faible. Mais on va te dire, c'est toi qui vas prêcher. Tu entends? Je me souviens un jour, j'ai passé la nuit dans un sous-sol où je vous ai toujours fait rire. On a mangé tous mes pieds par des grosses souris. Des grosses souris. Je n'avais même pas l'envie de les voir avec mes yeux parce que ça m'effrayerait tellement. Mais le matin, quand j'ai regardé tous mes pieds, il y avait du sang partout. Je dis, mais c'est quoi ça? Elle dit, oh, c'est des souris qui t'ont mangé. Je dis, comment? Je n'ai pas pu le savoir. Oh non, quand les souris, les gros souris, quand ils mangent, ils donnent un peu de l'air. Et puis tu ne sauras rien. Ils sont... Les amis, attends, je vais vous dire quelque chose. Parfois, tu ne me connais pas. Tu me vois seulement ici sur l'estrade, mais tu ne sais pas d'où je viens. Ah non. Ah, vous savez, parfois, tu ne me connais pas. Tu vois, c'est le pasteur Fofi. Mais attends, on a 30 ans d'histoire que je ne te souhaiterais pas de vivre. Ça ne sert à rien. Mais les amis, tout ce que aujourd'hui, je remercie Dieu parce que j'ai compris que c'est le meilleur travail qui puisse exister sur la terre. Si seulement je peux me donner de la peine de ne pas dormir ou bien d'aller, de parler de Jésus à quelqu'un, peu importe le prix qu'il faut payer, mais que pour que cette personne accepte Jésus et pour que son nom soit inscrit dans le livre de vie, alors c'est tout ce que j'ai comme salaire. C'est tout ce que j'ai besoin comme salaire. Okay. Il n'y a pas de prix pour ça, il n'y a pas de salaire pour ça. Pendant des années, on a prêché. Personne n'est venu me dire, oh non, je te donne un salaire. Des années, 20 ans.
sans salaire.
Il n'y avait pas de salaire de toute façon. L'évangile, tu te rends compte si je devrais prêcher par salaire. Mais je n'avais même pas de salaire, je ne savais même pas quoi je mangerais. Et même quand je me suis marié, je disais, Seigneur, maintenant, si Dieu est capable d'envoyer des corbeaux pour aller nourrir qui, il est capable de s'occuper de toi et te conduire étape par étape. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Sache, c'est pas quoi que je voulais dire. Ainsi dit le Seigneur. Et ça, je sais que le Seigneur voulait que quelqu'un entende quelque chose. Que son nom soit béni. Prenons dans le livre de Proverbes, chapitre 24. Alléluia. Proverbes, chapitre 24, verset 11. Préparons-nous. Proverbes, chapitre 24, verset 11, jusqu'au verset 12. Et puis, tu nous prépareras dans Proverbes, chapitre 20, verset 4. Et puis, on ira dans le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 18. Et puis on sort jusqu'au et puis le verset 30. Et puis on lira le livre des Proverbes, toujours chapitre 10, verset 5, ainsi de suite. Alléluia. En fait, depuis hier et depuis le lundi, nous sommes en train de parler sur la dernière parole de qui ? De Jésus. Le dernier parole de Jésus. Attends d'abord, enlève d'abord ça, parce que j'aimerais bien revenir un peu pour ceux qui n'ont pas suivi. En fait, nous sommes en train de parler de dernière parole de Jésus. Depuis le lundi. Quelle a été la dernière parole de Jésus? Jésus a dit ses derniers mots avant de partir au ciel. Et au cours de la semaine, j'avais bien expliqué que souvent, quand quelqu'un veut mourir, souvent, tout le monde attend. Quels sont ces derniers mots? C'est parce que même tous les gens de je ne sais pas quoi, de l'administration, ainsi de suite, ils resteraient par ces dernières volontés. Alors tout le monde attend. Et ils prennent note. Non, il a dit ça, ça, ça. C'était sa dernière volonté. Et puis ils les écrivent sur papier, et ainsi de suite. Je me suis toujours dit, depuis toute la semaine, j'étais en train de dire. Nous tenons tellement compte des derniers mots que les gens peuvent dire avant de mourir. Mais sauf nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, les enfants de Dieu, les sauvés, les élus de Dieu, cette race royale de Dieu, ce peuple mis à part, nous oublions le dernier mot de notre maître, de notre sauveur. Quel a été le dernier mot de Jésus avant de partir au ciel? Projetez-nous. Dans quoi, pour ceux qui étaient là, on avait... Marc quoi? Marc 16. Ah! Marc 16, à partir du verset 15. Alors, j'aimerais bien que nous le lisions rapidement. On va le passer rapidement. Puis, il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez quoi? La bonne nouvelle à toute la création. J'avais expliqué cela. Il a dit, Jésus a dit, allez, allez. J'ai bien insisté que les disciples ont compris le sens des mots « aller » et c'est pourquoi ils sont partis en action. S'ils n'avaient pas compris c'est quoi ça « aller », l'évangile ne serait pas ici. Ils ont compris c'est quoi ça « aller ». Et ils ont dit « aller » partout dans le monde. Et prêcher quoi? La mauvaise nouvelle. Mais c'était quoi? La bonne. Premièrement, « aller ». Deuxièmement, prêcher quoi? La bonne nouvelle. Deux choses. « Aller », ce qui voulait dire « action ». Commandement. Il dit, prêchez quoi? La bonne nouvelle. Et non pas aller dire à Jean, oh non, tu sais, si tu ne laisses pas ça, si tu ne laisses pas ceci, alors tu iras en affaire. Non, ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas aller dire à quelqu'un, laissez la boisson, laissez les femmes, laissez ceci. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Un point, un trait. La bonne nouvelle, c'est que Christ a pris la place de l'humanité à la croix. Et quiconque l'accepte, Dieu l'accepte. C'est tout. C'est ça la bonne nouvelle. C'est tout. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Christ a tout réglé à la croix. Et quiconque sur la terre reconnaît que c'est un pécheur, se répand de ses péchés, dit à Jésus, viens dans ma vie. C'est fini, Dieu l'accepte. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. J'avais bien expliqué que le plus gros erreur que nous commettons, nous en tant que des chrétiens, c'est de courir de gauche à droite et dire à quelqu'un, toi tu fumes, arrêtez de fumer, tu iras en enfer. Ah bon? Laissez les femmes, sinon tu iras en enfer. Laissez la boisson. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. L'évangile, ce n'est pas ça. Et c'est pourquoi vous voyez les gens se méfient de se donner à Dieu. Pourquoi? C'est parce que vous leur apportez une mauvaise nouvelle. J'avais expliqué cela ici hier. Vous savez le nombre des hommes qui sont fidèles à leur femme. Salut. C'est quoi ça être sauvé? C'est quoi ça naître de nouveau? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et quand on dit car Dieu a tant aimé le monde ce n'est pas la terre ici. Le monde c'est toi. Le monde c'est moi. Christ n'était pas mort. Non, Christ n'était pas mort à la croix pour cette terre. Christ était mort à la croix pour toi et pour moi. C'est l'homme qui a péché. Ce n'est pas la terre qui a péché. Ce monde c'est toi. C'est moi. Afin que quiconque c'est toi et moi. Afin que quiconque, c'est toi et moi. Afin que quiconque, c'est toi et moi. Les amis, l'évangile est simple. Ne compliquons pas les choses. N'allez pas apporter des discours bizarres. Ne déformez pas l'évangile, s'il vous plaît. Vous allez faire fuir des gens. Les gens fuiront. Je me souviens, c'était à Bruxelles. On nous a invités avec le pasteur Mathieu Moutchebele. On arrive dans une grande salle. C'était une grande réunion. Les louanges, ainsi de suite. Finalement, on a invité le prédicateur qui devrait parler. Il est parti. Il a commencé à rencontrer n'importe quoi. Il demandait les Congolais de se réconcilier avec les Belges. Et finalement, ça terminait avec des coups. Dans une foule du monde comme ça. Les Congolais se disaient, attends, tu sais ce que les Belges nous ont fait. Et tu veux que nous allons nous incliner. Tu parles, tu demandes le pardon à des personnes qui ne connaissent pas la puissance de l'évangile. Et vous savez, ça terminait. On a fallu lui casser tous les dents, monsieur le prédicateur. Et vous savez, le bishop me dit, Fofi, c'est toi qui dois parler là. C'est toi qui es un évangéliste. Parle. Je dis, attends. Là où les esprits sont chauffés, il ne dit pas. Moi, je ne voulais pas être victime. Et vous savez, La même foule, c'est de 700 personnes qui voulaient égorger tout, qui voulaient tout casser. La même foule. J'ai parlé pendant 20 minutes. Quand j'ai dit Amen, j'ai demandé qui veut donner sa vie au Seigneur. La même foule qui était dans tous ces états, la totalité, ont donné leur vie à Jésus. Ça dépend de qu'est-ce que tu dis. Les amis, c'est ce que tu dis. Mais tu ne peux pas dire sans connaître. Tu peux avoir une théologie, mais ne pas connaître la puissance de l'évangile. Tu peux faire fuir des gens. Tu peux faire fuir des gens. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes, même dans les églises, qui font fuir des gens. Lui-même, il n'invite jamais aucune personne. Il n'invite personne. Il voit quelqu'un qui arrive pour la première fois. Qui t'a invité, c'est toi? Messieurs et dames, je vous le dis. Si quelqu'un te perturbe ici à l'église, venez me voir. Je vais t'aider, on va le foutre lui dehors. Il y a trop du monde, parfois des aventuriers dans les églises. Trop. Ils n'invitent jamais aucune personne. Ils n'ont jamais amené même une âme à l'église. Mais c'est des personnes qui sont là. Tu sais, nous sommes là. Nous sommes les premiers dans cette église. Toi qui es-tu? Tu peux être le premier dans cette église. Ça ne change rien. Vous devez connaître, les amis, le prix d'une personne. Si tu n'as jamais amené une personne au Seigneur, méfie-toi, tu ne connais pas les caprices qu'il y a. Il faut que nous comprenions le pourquoi Christ est mort à la croix pour nous. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes, leur vie ne peut pas fonctionner tout simplement parce que c'est des obstacles dans le royaume. C'est des obstacles. Vous connaissez l'histoire de cette dame-là. Elle était tout le temps dans l'église. Elle demandait, pasteur, priez pour mon mari. Priez pour mon mari. Mon mari doit être sauvé. Priez. Un jour, on croise le mari. Le pasteur croise son mari. Il dit, mais monsieur, on a trop prié pour toi. Mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Avec toutes les prières que nous avons faites. Le monsieur le regarde et dit, monsieur le pasteur, moi venir où? Dans votre église. Mais tout ce qui se passe dans votre église, ma femme vient me dire comment ils se sont chamaillés avec quelqu'un. Ma femme vient me raconter la vie de tout le monde à l'église. Je me suis dit, si je dois venir dans cette église avec tout ça. Et vous savez, cette dame-là n'est pas seule. Hein? Il y en a plein dans nos églises. Au lieu d'aller emmener la bonne nouvelle, au lieu de parler du bien de l'église, Au lieu de parler de Jésus, et quand ils se rencontrent, ils ont formé, soyez pas indifférents. Lisons. Verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu dis, ah, nous ne savons pas, celui qui pèse le cœur, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Dieu te dit, si tu t'engages à sauver ceux qui vont vers la mort, si tu t'engages à délivrer ceux qui vont vers la destruction, il a dit, le Dieu qui pèse le cœur, ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Dieu te promet, il dit, je te rendrai selon le souci que tu t'es fait pour des hommes et des femmes qui sont en train d'entrer dans l'éternité. Les amis, j'aimerais bien vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez, qui sait, la vie sur la terre, même quand on vit 90 ans, c'est rien, c'est du n'importe quoi par rapport à l'éternité. L'éternité, c'est un temps sans fin. Même vivre 100 ans, combien plus fort on voit déjà à 70 ans, les gens ont des courbatures. Même à 50 ans, on a des courbatures inexplicables. Les rides commencent à apparaître. C'est là qu'on voit la vanité de la vie sur la terre. C'est pourquoi Dieu veut que les enfants de Dieu soient conscients de la vraie vie, l'éternité. Mais souvent, nous sommes plus conscients de la vie physique. Nous sommes plus conscients de la vie de la terre, qui est parfois bref à 80 ans, 70 ans. On est plus conscient de cette vie que de la vie que Jésus-Christ a dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si tel n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Ouh. L'éternité. L'éternité. Il faut que nous soyons conscients de l'au-delà. Il faut que nous soyons conscients. Le Seigneur dit, sauve-le, sauve-le. Qui? Mais toi, c'est toi. Dieu dit, c'est toi qui dois le sauver. C'est toi qui dois le sauver. Sauve-le. Comment? En leur apportant Jésus. Et hier, on a parlé de beaucoup de choses. Comment faire? Qu'est-ce que nous devons faire vraiment pour être accessible, pour apporter l'évangile comme il faut? On en avait parlé, mais aujourd'hui, j'aimerais bien ajouter. Lisons d'abord. Lisons dans Proverbes chapitre 20, verset 4. Allons-y rapidement. Proverbes 20, verset 4. Il dit ceci. À cause du froid, les paresseux ne font quoi? Ne labourent pas. À la moisson, ils voudraient récolter, mais il n'y a rien. C'est bizarre. Salomon a dit des choses. Il dit à cause du froid. Il dit à cause du froid. Il donne l'exemple. Il dit, un paresseux, quand il fait froid, il dit non, je ne peux pas aller travailler. Il dit le paresseux quand il fait froid, il dit je ne peux pas aller travailler. Je ne veux pas travailler parce qu'il fait froid. Mais écoutez les contrastes. Mais à la moisson, il voudrait quoi? Récolter. C'est anormal. Mais il dit même s'il veut récolter, à la fin il dit mais il n'y a rien. Parce que tu ne peux pas aller récolter là où tu n'as pas semé. Comment veux-tu récolter là où tu n'as pas semé? Tu n'as pas eu le temps de s'aimer, toi, tu l'as dit qu'il fait froid. Et vous savez, quand nous parlons du froid, on peut le changer de plusieurs manières. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Oh non, j'ai le temps pour travailler, mais je n'ai pas le temps pour moi. Oh non, j'ai le temps pour faire tout ce qu'il faut pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Mais non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'aller parler de Jésus. Je n'ai pas le temps parce que je ne sais pas quelle sera la réaction de la personne. Oh non, de toute façon, ma réputation, je n'aime pas de toute façon. Moi, j'aime passer incognito. Ah non, tu sais, moi je n'aime pas de problème, je n'aime pas mélanger ma vie. Vous savez, les chrétiens ont tellement d'excuses. Ah non, tu sais, moi je n'aime pas embêter trop les gens, je n'aime pas, je ne sais pas comment est-ce qu'il les prendra, je ne sais pas. Attends, l'apôtre Paul l'a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Mais quand tu regardais la vie de l'apôtre Paul n'était pas n'importe qui comme on pense. On pense que c'était un voyou, mais c'était un des intellectuels. Et la famille de l'apôtre Paul était des riches. C'était des riches. L'apôtre Paul n'était pas un petit vagabond de bidonville, non. La famille de l'apôtre Paul était une famille très riche. Très riche. Et il a étudié dans les écoles le plus chic à leur époque. Et il dit, en même temps, il était pharisien. Ah. Vous savez que parfois quand on explique l'apôtre Paul, il pensait seulement que non, c'était un petit criminel. Mais non, parce qu'il y a une personne là, il y a deux personnes, il y a trois personnes que j'ai préparées. Aucun pasteur n'ira leur parler, mais toi tu es l'évangéliste que j'ai choisi. Par ta gentillesse, par votre poignée de main, par ton invitation, cette personne-là, je l'atteindrai un jour. Je vais l'atteindre. C'est pourquoi sois gentil. C'est pourquoi sois sage. Peu importe le regard. Tu ne peux pas être en mission. Le diable sait que tu es en mission. Il ne te fera pas cadeau. Il suscitera tous les moyens possibles pour te faire partir de là. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui démissionnent des travaux qu'il ne fallait pas démissionner. Tu as démissionné un travail parfois qu'il ne fallait pas. En fait, tu as fui ta mission. C'est parce que l'orgueil est rempli en toi. Tu ne voulais pas que ta chair soit brisée. Tu ne voulais pas et tu démissionnes. Et tu as démissionné en démissionnant. Tu te remets dans un endroit que Dieu ne voulait pas que tu sois. Il y a d'autres places, quelle que soit la pression. Dites, Seigneur, tant que je n'ai pas encore accompli ma mission ici, je ne partirai pas. Aucune personne ne me mettra dehors. Seigneur, tu m'amèneras seulement quand c'est le temps. Et vous allez voir que quand Dieu veut t'amener de là, il veut t'amener à une autre place. Vous allez voir comment Dieu va chronométrer les choses. Les amis, c'est ça, être mature. La croissance, la maturité dans la vie spirituelle, c'est savoir marcher avec Dieu pas à pas. Il y a d'autres obstacles que vous voyez. Vous regardez l'obstacle, ne voyez pas l'obstacle. Dites, je bénis le Seigneur. Parce que s'il y a des personnes que Dieu a planifiées qui doivent être sauvées au travers de moi, je ne partirai pas d'ici. Regardez-moi avec le regard bizarre. Traitez-moi, parlez derrière mon dos. Vous allez voir au travail, dès que tu passes, il y a d'autres qui commencent à planiquer, placoter derrière ton dos. Même quand en retournant comme ça, tu les vois critiquer et puis je change. Tu dis, ce n'est pas mon affaire, je suis missionnaire, je suis un ambassadeur, je représente Dieu ici, j'ai une mission. Vous pouvez me regarder avec l'air bizarre, critiquez-moi quand je tourne le dos. De toute façon, me parler derrière le dos, c'est la preuve que vous me craignez. Mais moi, je continue. Et quand tu fais ton tour, tu n'as pas besoin de fermer ton front parce que tu les as vite critiqués. Quand tu les tournes, garde toujours ton sourire. Elle dit, mais attends, on venait de les critiquer à peine quelques secondes, mais elle, il continue à nous sourire. Oui, c'est ça qui va faire que tu fasses la différence. Tu ne peux pas faire la différence quand tout va bien. On fait la différence quand tout ne va pas bien. C'est là où on doit, oh béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il faut comprendre. Parce que Dieu va te façonner. Dieu va te façonner même dans le champ de bataille, dans le champ de ta mission. Dieu va te façonner. Dieu va façonner ton caractère. Tu verras parfois toute l'injustice. Tu dis, mais pourquoi les gens sont injustes comme ça? Mais laisse pas que tu deviens un miroir pour le jugement de plusieurs. Il y a d'autres personnes, ils seront jugés seulement par ta présence. Comment tu as supporté toute l'injustice au travail? Et ils savaient que tu étais un enfant de Dieu. Et il savait que ce qu'il faisait là, c'était pour te détruire. Mais la Bible dit que ceux qui ont médité de mal de moi, Dieu a changé ce mal en bien. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes, un jour, je bénis le Seigneur quand j'entends des témoignages de beaucoup de sœurs, il a dit, pasteur, les gens qui m'écrasaient au travail, tu sais, ils m'ont tellement écrasé, ils pensaient que j'allais partir en courant. Et certainement, je voulais tout baisser les mains. Mais Dieu m'a dit, non, pasteur, tu sais, on vient de me nommer leur boss. Tu sais, quand tu as cherché à écraser quelqu'un, maintenant cette personne-là devient le numéro un. Il dit, pasteur, les gens venaient me voir en disant, tu sais, on t'a fait du mal, est-ce que tu ne vas pas te venger? Elle dit, non, je suis un citoyen du royaume. Le mal que vous avez médité, Dieu l'a changé en bien. Les amis, comment est-ce qu'on peut voir les fruits de l'esprit? Le fruit de l'esprit, ce n'est pas ici à l'église. Le fruit de l'esprit, c'est quand tu es au travail. Comment tu en dis les choses? Tu vois parfois des personnes, tu vois qu'ils te cherchent des problèmes. Cette personne-là, tu sais que chaque jour, te cherche des problèmes. Mais comment tu gardes le calme? Et la Bible dit, garde le calme parce que l'Éternel combattra pour toi. Tout en sachant que toi, tu es en mission. Tu ne veux pas être un obstacle. Tu sais que tu es en mission. Mais il n'y a pas de mission sans épreuve. Il n'y a pas de mission sans travail dur. Il n'y a pas de mission facile. faut comprendre, les amis, faut comprendre. Ne sois pas seulement quelqu'un qui vient, qui lève les mains en l'air à l'église, et puis tu sors, tu penses que ça, être chrétien. Être chrétien, c'est quand tu es dehors. Comment on va te traiter? Comment on te traite dans ta famille? Comment tu sais fermer ta bouche? Ça, il y a d'autres familles, qui sont tellement injustes, qui sont prêts à te lapider. Ils te lapident. Ah, nous devons être des gens-là qui créent des millions de fêtes au ciel. Sois parmi ces gens-là qui créent, qui suscitent des fêtes au ciel, en amenant une personne à Christ. Et vous savez, le prix d'une âme, ça coûtait Jésus-Christ, ça coûtait toute sa vie. Ne pensez pas qu'amener une âme, ça sera facile. Hein? Ah non, les amis, est-ce qu'on peut s'occuper des enfants? Je vous le dis, les amis, ne pensez pas qu'amener une âme au Seigneur, ça sera facile. Ça ne sera pas facile, parce que le diable va s'opposer. Il va te susciter la guerre. Il va créer tous les découragements. Les gens vont t'insulter. Les gens, vous savez, le nombre de personnes, je me souviens, un jour j'étais en train de prêcher quelque part. Alors quelqu'un voulait corriger mon français. Il a dit, monsieur, tu as oublié de dire l'accent là. J'ai dit, merci monsieur. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Voyez, le diable. Il y a d'autres qui étaient là pour conjuguer l'adverbe que je n'avais pas complété. L'accent circonflexe, attends. Tu penses que quelqu'un qui vit, qui veut vous rire, qui est perdu, il a besoin de savoir si tu as mal conjugué, bien tu as bien conjugué. Tout ça, c'est des trucs du diable. Le diable va te dire, non, tu ne sais pas parler. Le diable va te dire, oh non, 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 tu ne connais pas beaucoup de versets. Le diable va te dire, non, 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 tu n'es pas capable. Et puis, il va utiliser ça pour t'amoindrir. Dites à Satan, tu ne peux pas m'amoindrir. Je m'en fous que je parle vrai anglais ou faux. Tout ce que je sais, je vais te communiquer, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Je suis en train de casser un peu tous les plans de Satan. Je suis en train de briser un peu tout ce qui vous empêche. Le culte de la personnalité aussi. Il y a d'autres qui vivent avec un culte de personnalité. Non, moi. Quel moi? Moi. Pose la question. Vous savez, beaucoup de personnes, ça fait des années, vous êtes dans l'église. Te pose la question. Combien d'âmes as-tu déjà amené? Non, moi. Toujours moi. Et la plupart des gens qui n'amènent jamais des âmes au Seigneur, c'est eux qui créent des divisions. C'est eux qui créent des divisions. Vous savez que la plupart des gens qui n'amènent jamais des âmes, c'est eux qui chassent des hommes. C'est eux qui aiment. Oh non, on ne m'a pas donné le micro pour que je prêche. J'ai toujours dit, ici au Christ en action, je suis le pasteur. Je prêcherai jusqu'à me fatiguer. Ce n'est pas le strat de quelqu'un. Le jour que tu verras que tu as un vrai ministère, on va fabriquer un banc pour toi. On le mettra dans la rue quelque part. Dis, Jésus est ici, Jésus est ici. Le nombre de personnes que tu vas gagner, tu seras par seul. Béni soit le nom du Seigneur. Ah, quelqu'un peut dire un bon amen. Vous savez, les gens qui amènent des âmes au Seigneur travaillent fort. Travaillent fort. Les âmes sont dehors. Les âmes sont dehors. Je me souviens quand j'étais à Paris, je disais, mais Seigneur, mais comment il dit, toi, tu vas parler de moi dans le métro. Et les amis, des choses que je vis dans le métro, je ne pouvais pas les voir dans des églises. Parce que c'est là, les gens étaient là. C'est la première fois, je voyais des musulmans qui venaient, qui prenaient ma main, qui les faisaient. Je dis, monsieur, ce que tu as dit là, ça m'a pris ici. Les amis, ici tu es là pour être formé. Mais des amis que tu vas croiser sur ton chemin, les gens que Dieu va mettre sur ton chemin, c'est ton champ de mission. Est-ce que vous m'entendez? Vos maisons, nos maisons devraient être des sanctuaires. Nos maisons devraient être des lieux de culte. Nos maisons devraient être des endroits où, au cours de la semaine, parfois, je ne sais pas si c'est un lundi que tu es libre, tu invites quelques amis. Les amis, vous pouvez venir. Est-ce que vous pouvez venir manger avec moi? Je prépare un petit repas. Invite un peu des amis qui t'entourent, même 5 personnes. Manger avec et prépare un bon repas. Dis, je vais recevoir Jésus ici. Quand tu les reçois, ne vois pas ces gens-là, vois Jésus. Je vais les recevoir chez moi. C'est une soirée spéciale où je prépare un repas. Je vais inviter tous ces gens-là. Je vais leur donner à manger. Même si tu ne leur parleras pas de Jésus, mais ton repas, c'est un message. Quand tu vas témoigner, quand tu finiras, même la prière que tu as faite, et même si tu ne sais pas vraiment bien parler, mais quand tu leur diras que Christ est mort pour eux, même à cause du repas, ils seront touchés de la compassion. Qui est là? Mais nos maisons devraient être des endroits d'évangélisation. Nos maisons. devraient être des endroits d'évangélisation. Nos quartiers devraient être des endroits. Moi, il y a d'autres personnes, je ne leur parle pas de Jésus comme ça. Je connais le nombre de personnes que j'ai amenées au Seigneur dans les quartiers. Et je voyais que parfois, leur truc là de n'a pas pu t'assurer la vraie vie. Vous savez, les amis, quand tu regardes, c'est tout simplement, tu dois être assuré. Et j'encourage les gens. Il ne faut pas que ton corps un jour soit quelque part. Oh non, on commence à cotiser. Assure-toi-même pour $20. Parce que ce n'est pas digne ça. Tu manges beaucoup d'argent, tu achètes n'importe quoi, même votre garde-robe est chargée. Et tu ne sais pas c'est quoi savoir une assurance. N'importe quoi. Ça ne marche pas. Vous savez, parfois, ça nous fait la honte. Ça fait la honte. Et tant que ministre de Dieu, je dois le dire, un vrai enfant de Dieu doit apprendre. Si tu vis ici au Canada, tu dois apprendre à avoir ton assurance. Ça veut dire, ah ouais, tu vas me précipiter à mourir. Tu vois, tous ces milliers de personnes qui sont ici ne meurent pas. Seulement en ayant le Seigneur. Regardez comment les gens vivent comme s'ils vivent dans la forêt avec les rats. C'est comme ça que les gens sont. Les gens vivent ici comme ils vivent, comme dans leur pays d'origine. Mais ici, tout est payé, non? Tout est payé ici. Tout est payé. Tu sais que parce que si tu prends l'assurance, si c'est de $20, que cela va t'amener à mourir, qui t'a dit ça? Tu sais, les gens qui vivent dans ces pays-là, tous sont des assurances. Mais ils vivent 90 ans. Mais c'est la superstition de l'homme noir. C'est comme s'il ne mourra jamais. Mais de toute façon, le vouloir ou pas, la mort frapperait à la porte. Mais au moins, tu dois avoir la dignité, dite dignité. Ah non, là, j'ai dit dite dignité. Sois digne. Un enfant de Dieu, c'est un citoyen qui vit dans la dignité et qui meurt dans la dignité. Un point très. Mourir dans la dignité. C'est quoi ça, cette affaire? Quelle mentalité? Alors la Bible dit que revenons. La Bible dit que nous sommes des courtiers de l'éternité. Nous sommes des courtiers de quoi? De l'éternité. Courtiers de l'éternité. Dire nous sommes vrais des agents d'assurance, mais nous assurons les gens par l'évangile de Jésus. Nous les assurons pour l'éternité. Mais attends, tu es le meilleur courtier qui puisse exister. Parce que toi, tu assures quelqu'un pour la vraie vie. Dites la vraie vie. Dites encore la vraie vie. Dites encore la vraie vie. Répète encore la vraie vie. Il faut que tu comprennes. Dieu te dit que tu es un courtier de l'éternité. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous savez que quand tu amènes quelqu'un au Seigneur, tu sais que tu es en train de lui assurer pour la vraie vie. Vous savez le nombre de personnes qui respiraient des comptes à la banque et qui mourait en graissant les dents, parce qu'il voyait l'éternité. Il voulait entrer dans une éternité sans fin, et il savait où ils allaient. Moi, j'ai déjà été à maintes reprises dans un endroit où les gens mouraient. Je suis. Oui, en tant que pasteur, en tant qu'aumônier, je suis arrivé dans des places où les gens mouraient, les gens rendaient l'âme. C'est là où tu vois comment les yeux de quelqu'un peuvent bouillonner. Parce qu'il commence à avoir l'éternité. Il voit où il s'en va. Les amis, c'est là où... Il faut écouter les témoignages des gens qui étaient sortis dans leur corps et que Jésus a permis de revenir. C'est affreux. Ne joue pas. C'est que tu es là. Si tu faisais seulement l'expérience, là, un peu seulement de quelques secondes, je crois que tu vas commencer à dormir ici à l'église. Je crois que dans ta voiture, il y aura des pancartes. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Partout. Tu mettras cela dans ta voiture. Crois au Seigneur, tu seras sauvé. S'il vous plaît, soyez sauvé. Vous serez la première personne à crier partout, s'il vous plaît. Je vous en supplie, soyez sauvé. Madame, fermez-la. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, soyez sauvé. Mais c'est parce que tout, Dieu les cache. C'est quelques personnes parfois qui ont fait cette expérience, qui sont parties dans l'au-delà, qui sont revenues. Mais quand ils témoignent un certain moment, et tu sais que tu peux perdre même ton appétit. Certains moments, tu n'as plus l'envie, tu retournes. Moi, j'en ai déjà suivi des témoignages. Tu retournes à la maison, tu regardes le repas, le plat, tu n'as pas l'envie de manger. Tu commences à te poser la question, est-ce que ma vie est en règle avec Dieu? Tu as l'envie de te mettre à genoux pleurer en disant, Seigneur, je suis désolé, mais tu vas commencer à confesser même des péchés que tu as déjà confessés, ça fait longtemps. C'est parce que les amis, que personne ne vous trompe. Lisez un peu le verset, Proverbe 10, 5, s'il vous plaît. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. 10, 5, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui amasse pendant l'été est un fils quoi? Prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait la honte. Mais tout cela dans le cadre de l'évangile. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Dieu veut que nous amassons des âmes. Dieu veut que nous amassons des âmes.
Nous vous remercions d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 514-931-2954 ou nous visiter sur Internet au www.christenaction.com.